Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Six suspects arrêtés au village Fatundu dans le territoire de Bagata au Kwilu où une panique générale a été observée. Hier lundi, le chef de secteur de Wamba qui livre l'information appelle le gouvernement à assister et à sécuriser cette population. Et puis la voie ferrée est coupée par une tête d'érosion à Benaleka dans le territoire de Demba au Kassaïr central. La société civile locale appelle à une solution rapide, cette voie étant celle qui approvisionne la ville de Kananga en produits agricoles. Enfin, Aristide Ogoné Obame, représentant de la FAO en RDC, est notre invité dans ce journal. Il parlera de la priorisation de l'agriculture en RDC, conditions essentielles pour réussir le développement de ces secteurs. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Avant d'aller plus loin, notez tout d'abord que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a levé hier lundi 26 septembre par un arrêté provincial signé le même jour le couvre-feu dans la ville de Goma. Mais le couvre-feu reste maintenu dans d'autres parties de la province. Cette décision est prise sur base des recommandations formulées par les membres du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité du 26 septembre tenue à Goma. Rappelons que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait déjà, lors de la clôture de sa mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, instruit le gouverneur du Nord Kivu à trouver des communs accords avec le conseil provincial de sécurité le moyen de lever le couvre-feu dans la ville de Goma. Après le territoire de Kwamout, dans le Maïndombe, le conflit meurtrier qui déchire les ethnies Teke et Yaka a atteint les Kwilu. Ici, plusieurs sources ne parlent plus des conflits Teke et Yaka car, selon elles, cette insécurité prend des proportions très inquiétantes au point de ne plus savoir qui en sont les vrais instigateurs. Hier lundi, dans la matinée, une panique générale a été observée au village Fatundu, chef-lieu du secteur de Wamba, dans le territoire de Bagata. Dans ce village, qui a accueilli samedi des déplacés venus du village Bukusu, ont assisté à un déplacement massif de la population qui fuit dans tous les sens pour se mettre à l'abri. 6 personnes qualifiées de suspects ont été arrêtées par la police dans ce village avec des armes blanches. Le chef de secteur de Wamba, qui livre l'information, appelle le gouvernement à assister et à sécuriser cette population. Martin Gabia a été joint par votre rédaction.
Effectivement, c'est comme vous le savez, c'est toujours le problème du Kwamutu là-bas. Les agresseurs sont passés par le village Bukusu. Ils ont cherché des chiens. Ils sont allés les capturer à la forêt et on l'a tué dans son carré propre. Ils ont incendié toutes les maisons. C'est comme ça la population de ces rayons d'action, ils ont pris fuite à Fatundu. Alors, ce matin, on a vu une pirogue qui montait entre le village Kingalakiana et le port de Fatundu. La police est allée là-bas avec les éléments de bureau mieux de la FARDC. Ils ont capturé 6 suspects qui sont aux arrêts au niveau de la police. Ils avaient des machettes, des banderoles qu'ils ont mis dans leur corps, sur la tête et au bras, ils montaient vers Fatundu. Le village est vraiment traumatisé. C'est tout le monde qui est à Demanda, ils fuient vers Kolokoso, pour Matimanimba. Ils ont reçu les gens de Bukusu, de Kimpana, des villages limitrophes là, qui fuyaient pour Fatundu. Maintenant, à Fatundu, de leur tour, c'est tout le monde qui est paniqué. Nous avons lancé le gouvernement provincial pour qu'il puisse assister la population, la paix et la sécurité sociale.
Joint à ces propos, l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mankoto, qui était en route pour Fatundu, a confirmé cette information et appelle la population au calme. Et puis, selon l'administrateur du territoire de Bagata, samedi dernier, des assaillants armés ont attaqué le village Bukusu, situé dans le territoire de Bagata, dans le Kwilu. Plusieurs personnes ont été tuées, le chef du village est mort, décapité. On dénombre aussi plusieurs maisons incendiées. Information livrée par l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mankoto, qui signale aussi le déplacement massif de la population de Bukusu vers Fatundu. Selon lui, le nombre de morts n'est pas encore déterminé. On l'écoute.
C'était hier, le village de Bukusu, qui est dans le groupement Fayala, il y a nos frères Yaka qui ont traversé la rivière Kwango, où ils ont assassiné les chefs du village et quelques personnes, ainsi que certaines maisons incendiées. Il y a des déplacements qui fuient vers Fatundu et les villages environnants, dont les capitaines de la police nous nous a rassurés. Et il y a aussi une dispersion sécuritaire au niveau du port de Fatundu où on commence aussi à résister les déplacés pour savoir les effectifs. Au réunion du comité de sécurité du territoire de Bakata, nous avons pris des mesures tout d'abord d'informer notre réagir que la province et aussi demain le comité de sécurité de Bakata va faire la descente sur les à Fatundu pour bien investiguer.
Au total, combien de personnes sont tuées à Bukusu?
On n'a pas la précision sur le nombre de personnes. Vous savez que quand il y a la panique, les gens fuient. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont compter le nombre? Ça, c'est peut-être ça va venir après.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, le bilan de la première journée hier lundi de l'opération Ville Morte est diversement commenté. Pendant que la société civile affirme que l'appel a été un succès, le gouverneur de province félicite la population pour n'avoir pas répondu à cet appel. Rappelons que la coordination provinciale de la société civile qui a lancé cet appel le week-end exige notamment la libération de Bunagana sous occupation du M23, la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO. Bernard Nyangi.
Après une tournée effectuée au sein de cette entreprise publique qui intégralement ont fonctionné normalement ce lundi et la visite qui s'est poursuivie au niveau des services de la mairie, le gouverneur du Nord Kivu a réitéré sa demande à la population de continuer à vaquer à ses activités au quotidien. Lieutenant général Constant Dima, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Les forces de défense et sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation qui ne nous apporte que de deuil et de destruction des infrastructures. C'est donc nous ne pouvons pas accepter. Et quand nous regardons en profondeur dans ces structures de groupes de pression, ils n'ont même pas une personnalité juridique.
De leur côté, les responsables de la coordination de la société civile ainsi qu'un membre d'un parti politique Nouvel Élan parlent d'un succès pour cette première journée ville morte. Selon eux, les écoles et plusieurs autres commerces n'ont pas ouvert. Ce dernier appelle à une mobilisation pour cet appel qui se poursuit. C'est mardi.
Toujours dans le Nord Kivu, cette fois-ci dans la ville de Butembo, les activités socio-économiques se sont déroulées normalement hier lundi, en dépit d'une certaine timidité observée dans la matinée. Les commerces et toutes les autres activités socio-économiques ont ouvert leurs portes. Même constat dans le secteur éducatif où les écoles de la ville ont fonctionné comme d'habitude. À Beni également, toutes les activités ont tourné normalement malgré l'appel à deux journées ville morte lancé par la coordination de la société civile du Nord Kivu, ainsi que la synergie de mouvements citoyens et groupes de pression demandant la levée de l'état de siège et la récupération de Bunagana par l'armée, mais également les départs de la MONUSCO. On reste dans le Nord Kivu, parlons du lancement hier lundi à Beni de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC, Step 2 en sigle. Il s'agit d'un projet de haute intensité de la main d'œuvre Timo. Ce projet du Fonds social de la République est financé par la Banque mondiale. Il va utiliser une main d'œuvre évaluée à 7500 personnes et a pour objectif principal de répondre aux besoins de la population vulnérable de la région. Les premiers bénéficiaires sélectionnés se disent satisfaits. Ce reportage est rendu par Grace Hamzati.
Lors du lancement de ce projet, le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Muteba Kachale Narcisse, a loué le gouvernement congolais pour cet outil de stabilisation mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie sociale de la population vulnérable, d'où son appel aux bénéficiaires de se l'approprier. Pour sa part, Didi Mubinzi, responsable provincial antenne des fonds sociaux au Nord Kivu, invite chacun au bon sens pour que cette chance ne lui soit arrachée.
Nous allons lancer les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour 7500 personnes. Ils vont travailler de lundi à vendredi pendant 100 jours. À la fin des 100 jours, ils seront formés et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de 100 dollars. En cas de dérapage, on arrête les contrats de la personne qui a été sanctionnée.
Ce projet est vivement apprécié par les bénéficiaires. Ils expriment leurs engagements dans l'entretien des voies routières, comme pour débroussailler, remblayer et même faire le curage des caniveaux.
J'étais engagé au niveau de Boulogne. J'ai perdu l'emploi à cause du massacre. Je suis venu ici dans la ville. J'étais sans emploi. Mais voilà, c'est ce jour-là, je serai quand même occupé.
Je vais faire mon travail jusqu'au bout avec mon contrat bien signé 100 jours.
Les second volet des travaux de construction des infrastructures de base consisteront dans un mois à la construction de 27 écoles et de 2 centres de santé ainsi qu'une source d'eau.
Au Maniema, le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, est arrivé hier lundi à Kindu, accompagné de sa femme et de ses enfants. Vital Kamerhe, comme partout ailleurs, a tenu un meeting à la tribune centrale de Kindu, appelant la population à l'amour de la patrie. Reportage Florence Kizalunga.
Je suis venu apporter un message de paix, de cohésion, d'amour et de développement. C'est le message essentiel de Vital Kamerhe à la population venue l'écouter. Dans son adresse, le président national de l'INC a remercié toute la population du Maniema pour son soutien lors de ces durs moments. Il a également épinglé les difficultés que traverse la population de cette province. C'est notamment le manque d'électricité, le chômage, l'absence de routes et de dessertes agricoles. Sur le plan social, Vital Kamerhe a déploré les non-payements de certains agents matriculés, mais qui n'ont jamais vu la couleur de leur salaire jusqu'ici. Le patron de l'UNC a promis de prendre les doléances des Maniémiens et de les amener auprès des autorités compétentes pour qu'une solution soit trouvée. L'agenda de Vital Kamerhe dans le Maniema n'a pas été révélé à la presse. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la voie ferrée est coupée par une tête d'érosion depuis ce week-end au niveau de la gare de Benaleka dans le territoire de Demba. Une situation causée par les pluies qui se sont suivies dans la zone, rapporte les sources locales. La société civile locale qui alerte les autorités appelle à une solution rapide, cette voie étant celle qui approvisionne la ville de Kananga en produits agricoles. Moïse Kasonga, l'un des acteurs, craint une crise alimentaire si rien n'est fait. Il est joué au téléphone par François Kadima.
Avec ce qui est arrivé, les trains ne peuvent pas passer sur ces lieux-là. Quitter Benaleka, par exemple, ramener les produits agricoles vers la cité de Demba et par après vers les centres-villes de Kana. Que là, il y a déjà un problème. Vu que les trains ne peuvent pas passer sur ces lieux-là, puisque avec ce qui est arrivé, la voie qui est coupée en deux, c'est difficile de voir un train passer sur ce lieu-là. Je demande aux autorités politiques de s'impliquer davantage, de trouver au plus vite des solutions, sinon ça va causer une situation très difficile qui va dégénérer en une crise alimentaire. Vous le savez, avec ce qui se passe sur la ville de Kanan. C'est une situation qui va s'ajouter à celle de la hausse des prix des denrées alimentaires sur la ville. On avait déjà lancé certaines actions pour interpeller notamment l'ensemble du territoire, pour que qu'on prenne des dispositions idoines, des moyens utiles pour parvenir à trouver des solutions. Sinon, ça va être vraiment difficile.
Alerté, le gouverneur de province a décidé de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation et envisager une solution rapide. Et puis, bonne nouvelle pour la province du Kasaï Oriental, des engins roulants et des matériels pour les travaux de réhabilitation et modernisation de 35 km de la voirie ont été réceptionnés le week-end à Mbujimayi par les responsables de l'entreprise Safrimex. Les habitants de Mbujimayi étaient émerveillés de voir le cortège de véhicules. Nombreux ont remercié le chef de l'État ainsi que les entreprises qui travaillent pour la modernisation de la voie urbaine. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est le troisième convoi d'engins roulants réceptionné par l'entreprise Safrimex depuis le début des travaux de réhabilitation et de modernisation des 35 km de route de la voirie urbaine. Les engins réceptionnés ce samedi au péage de Chibombo en provenance du Kasaï central sont composés de 6 camions BEN pour le transport des matériaux de construction et de réhabilitation des routes. L'entreprise Safrimex a aussi réceptionné le même jour une niveleuse, un mini camion citerne et une Jeep. Ces camions BEN transporter des fils de bitume. À leur passage sur certaines artères avant d'arriver au chantier, les habitants de Mbujimayi n'ont pas hésité de manifester leur joie.
Nous sentons quand même que non, il y aura un changement et cela nous rend heureux et nous sommes contents. Quand nous avons vu ça, nous sommes sûrs que ça ira quand même et on va arranger notre province.
Ça montre que l'aspect de la ville va changer et nous aurons des bonnes routes. Nous avons la joie.
Ça fait la joie quand nous voyons des choses comme ça. Ça va terminer les sécurités.
Signalons que depuis le début de ce mois de septembre, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine avancent à une vitesse de croisière. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme national de santé de la reproduction ainsi que plusieurs institutions de la santé publique ont célébré hier lundi 26 septembre, ici à Kinshasa, la journée mondiale de la contraception. Thème choisi cette année, accès à une contraception saine et adaptée pour tous en RDC. Objectif, faire connaître la contraception à toute personne et aux femmes, en particulier en vue de faire des choix éclairés. Plus de détails avec Kiryoka.
La journée mondiale de la contraception a réuni différentes couches de la société autour du plan stratégique national à vision multisectorielle de la planification familiale. Un moyen de reconnaître les nombreuses avancées dans le domaine de la planification familiale a indiqué le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani.
Ceci constitue pour nous l'occasion de faire connaître les nombreuses avancées dans le domaine de la planification familiale, ainsi que les valeurs fondamentales de service, d'intégrité et de professionnalisme dans l'offre de services de planification familiale en République démocratique du Congo. Pour rencontrer la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, qui a prôné la gratuité des accouchements, ainsi que tous les soins pré- et postnataux.
Cette journée n'a pas laissé indifférent ce participant.
Ça aide à la santé des familles, la santé des femmes, la santé des enfants, même pour l'amélioration de l'économie du pays. En tout cas, là, c'est une très grande, une très bonne intervention.
Notons que la clôture de cette activité a été sanctionnée par la vente des produits contraceptifs féminins et masculins.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le convoi de ravitaillement de la ville de Djibo a été pris à partie par des hommes armés hier lundi. L'état-major des armées n'a pas fourni de bilan, mais parle de dégâts humains et matériels. Selon une source sécuritaire, au moins 10 soldats ont été tués et une trentaine de blessés, dont un civil.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Aristide Ogoné Obame, représentant de la FAO en RDC. Il parle des systèmes alimentaires qui ont fait recette dans certains pays et surtout du financement de la priorisation de l'agriculture en RDC, conditions essentielles pour réussir le développement de ce secteur. Le docteur Ogoné Obame s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Monsieur Aristide Ogoné Obame, bonjour.
Oui, bonjour.
Que peut-on retenir des systèmes alimentaires?
Très simplement, le système alimentaire, c'est toutes ces étapes qui concourent à la bonne alimentation d'une population. On part de l'étape de la culture, comment cultiver. Pendant cette étape, on va arriver à ce qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a le conditionnement. Le conditionnement, après, va suivre la transformation, le transport, la commercialisation et la consommation. C'est toutes ces étapes-là qui composent ce qu'on appelle le système alimentaire. Mais il n'y a pas que ça. Pendant ces étapes, on va utiliser un certain nombre d'intrants. Ça peut être des semences, ça peut être des outils agricoles, ça peut encore être des fertilisants ou autres. Et nous utilisons aussi ce qu'on appelle les services, les institutions, pour effectivement voir comment ces systèmes alimentaires fonctionnent. On va aussi regarder l'impact de toutes ces étapes sur l'environnement. Est-ce que ça dégrade la santé de l'environnement? Et c'est tout ça. Il faut que on arrive in fine à produire suffisamment d'aliments sains pour nourrir la population sans dégrader l'environnement.
Nous avons appris qu'un processus d'évaluation du système alimentaire de la République démocratique du Congo a été réalisé par le gouvernement en partenariat, bien sûr, avec l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO que vous représentez ici, et les Centres Français de Recherche Agronomique et de Coopération Internationale, CIRAD en sigle. Quel a été l'objectif de ce processus?
Alors ce processus, je confirme, il a été mené effectivement avec toutes ces institutions qui ont accompagné le gouvernement de la RDC. Ce processus d'évaluation avait pour objectif de voir pour 50 pays, parce qu'il y a 50 pays qui avaient été retenus, pour parler simple d'état de santé de ces systèmes alimentaires dans ces différents pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On est à quel niveau? Quels sont les défis? Et où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on sent les goulots d'étranglement? Où sont les faiblesses? Et bon, on va directement aller à la RDC. En RDC, nous avons relevé, premièrement, que malgré le potentiel que vous connaissez, autour de 80 millions de terres arables, tout le monde connaît ce chiffre-là, il est très élevé. Nous avons, première chose, constaté que la RDC peine malheureusement à nourrir sa population. L'orientation qui avait été donnée, et à Malabo, par tous les États de l'Union africaine, c'est de mettre au moins 10% de leur budget national pour développer ce secteur. Si nous revenons en RDC, nous sommes aujourd'hui à peine autour de 3%.
à peine des financements. Des financements dans le secteur.
Mais là aussi, quand vous parlez des financements, je vois non seulement l'État congolais, qui doit dans son budget national prévoir un pourcentage conséquent pour l'agriculture, mais aussi de l'apport extérieur, et notamment de l'AFAO.
Je vais être franc avec vous. Un pays se développe effectivement avec des apports extérieurs, mais pas seulement avec ça. Aucun pays ne se développe seulement avec des apports extérieurs. Et puis ceux qui viennent comme des partenaires et qui font ces apports extérieurs dont vous parlez, regardent un peu quelles sont les priorités du pays. Les gens viennent vous appuyer en fonction des priorités que vous indiquez. Un pays est souverain. Un pays écrit son développement. Et les partenaires viennent l'accompagner. Ce n'est pas les partenaires qui viennent décliner une politique de développement d'un secteur. Par conséquent, le début, c'est est-ce que le secteur agricole est prioritaire? Si oui, c'est là où vous aurez beaucoup d'apports extérieurs. Sinon, mais pourquoi voulez-vous que les partenaires viennent investir dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour vous? Alors, l'indication, c'est ce niveau, cette orientation de 10%. C'est ça qui va nous dire, en tant que partenaire, que ce secteur est prioritaire. Mais tant qu'on est à 1, 2, maximum 3%, et quand on regarde le budget du pays, c'est clair que dans les faits, c'est pas encore priorité.
Voilà, complètement terminée cette édition mise en onde par Jean-Noël Mokondo, coordonnée et supervisée par Pélé Kipela Mondo. Merci pour votre particulière attention.